bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Original, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudali.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour.
Tom Villa.
Bonjour.
Pierre Bogui.
Oui, salut.
Tanguy Pastureau. Tout à l'heure, il y aura Team Up en live et notre invité Frédéric Mitterrand. Oh. Tout va bien, Frédéric?
Bonjour.
Non, alors, je suis pas sûr. Là, il faudrait, Guillermo, tu peux-tu aider le casque?
Mais Guillermo, de... aidez-moi.
Parce qu'il a une espèce de couette, c'est pas possible.
Il est emmêlé.
Voilà. J'ai des dessins bizarres, là.
Non, ce sont pas des dessins bizarres, ce sont nos invités qui gribouillent un tout petit peu sur la table. Frédéric Mitterrand, avec ce fameux Bonsoir bâillonné.
Ben oui.
Qui a eu l'idée, d'ailleurs, de vous bâillonner pour l'affiche de Bonsoir?
Je pense que c'est moi.
C'est vrai?
Oui.
Vous en avez marre de vous entendre?
Oui, j'en ai marre de m'entendre dire bonsoir. J'allais dire bonjour maintenant.
Très bien, bonjour. Ce sera au studio Marigny à partir de ce 23 novembre. Ça approche, et ce, jusqu'au 6 janvier.
Vous avez le trac? Après-demain.
Non, c'est bizarre, j'ai pas le trac. Mais je pense que je l'aurai juste avant d'entrer en scène.
Ce sont des lectures, on va en parler dans quelques instants. Vous avez reçu d'ailleurs pour deux des livres.
Mais oui, vous êtes merveilleux, Nagui.
Non, nous sommes fidèles.
Bah nous aussi, hein.
Nous sommes fidèles.
Je les ai lus, moi aussi.
Tous merveilleux.
Je les ai lus, je m'en souviens.
Tous merveilleux.
Mais d'abord, des questions sur Fredo.
Ah.
Ah, donc c'est passé à Fredo.
Connaissez-vous, connaissez-vous bien Frédéric Mitterrand? Quelle faute protocolaire a-t-il faite lors de son premier conseil des ministres?
Pas mal, j'en ai fait pas mal.
Il n'a pas respecté le tour de parole. Dans l'adresse aux autres, il n'a pas...
Il a embrassé le Premier ministre.
Non.
Il s'est pas pointé?
Non.
Il a dit, c'est venu en short, président. Il est venu en short. En pantoufle?
Non.
Sans cravate.
C'est le dress code, hein? La cravate?
C'est un problème de vêtements, mais de comportement avec le vêtement, pas le choix du vêtement.
Ah, il a gardé
son manteau.
Exactement. Il a fait tomber la veste.
Ouais. Exactement.
J'ai gardé mon manteau, c'est vrai.
Ah, le
non,
manteau.
C'est pas vrai. Vous avez enlevé la veste et vous l'avez posée sur le dossier.
Voilà, c'est ça, oui.
On peut pas faire ça?
Et alors, je sais plus qui. Ah oui, je sais plus quel ministre m'a dit.
Éric Besson.
Oui, m'a fait signe, remets ta veste. J'ai remis ma veste.
Donc vous avez obéi à Éric Besson. Alors, deuxième question.
Éric
Besson était un peu à la retournée.
C'était normal, oui, c'était normal. Comme je l'avais retourné, c'était normal que je la remette.
Oh, joli.
Non, mais c'est lui qui m'a soufflé.
Oh, joli.
C'est lui qui m'a soufflé.
Bravo. Comment Frédéric Mitterrand a-t-il posé pour la presse à la Villa Médicis?
Non, pas
en slip.
Presque.
Nu dans le lit.
Ah oui, mais j'étais en pyjama quand même.
Nu dans le lit, c'était en référence à Balthus.
Non, mais pas dans un monument historique. Je me mets pas tout nu dans un monument historique.
Et
un
monument
historique, ça m'arrive dans d'autres circonstances.
C'est beau, le monument,
un peu de lierre, et puis voilà.
C'est le lit qui était flatté, vous savez.
Il aurait pu l'être.
Ah oui, on en a parlé.
Oui.
Alors écoutez, l'anecdote veut que vous ayez en référence à Balthus, peintre figuratif français d'origine polonaise qui était nommé directeur de l'Académie de France à Rome, à la Villa Médicis. Vous avez, il a été nommé par André Malraux.
J'en ai marre de faire des émissions culturelles.
Ah bah là, vous êtes bien tombé.
Bienvenue. Hein.
Là, vous risquez pas la méningite. Ouais,
allons-y. Frédéric Mitterrand est un grand spécialiste. De quoi?
Du kung-fu.
Du cinéma?
Non, alors...
Des actrices décédées?
Non.
On a dit qu'on parlait pas des ex. Attention, hein.
Non, alors, une spécialiste de lettres, mais quel genre de lettres?
Pas signé.
Les humanités, le latin grec, non?
Les lettres anonymes.
Ah, des lettres, de l'épistolaire, tu veux dire?
Ouais.
Amoureuses?
Non.
Les lettres d'excuses.
Non, vous avez un avantage, par exemple.
Je vous en écrirai une.
Ah, est-ce que ça serait pas Frédéric Mitterrand qui ferait les excuses de fin d'émission?
Pas mal.
Ouais, désolé.
Du moment que je gère les droits d'auteur.
Mais, puisque tu les écris pas. Mais, juste.
C'est bien normal.
Moi, je sais écrire quand même. Là, je vois cet appel à machine.
Oui, bien sûr.
Non, mais lui, c'est pas Daniel.
Ça veut dire que vous. Est-ce que vous avez le sentiment de commettre beaucoup de boulettes dans vos relations amicales ou professionnelles, ou vous n'avez pas tout dit après avoir quitté quelqu'un et vous dites je vais quand même lui écrire pour lui dire ce que je pense vraiment?
Les deux, mon général. Les deux. D'une part, d'abord, j'aime pas faire de la peine aux gens, et j'ai l'impression assez souvent que je fais pas le truc qu'il faudrait faire, et donc dans ce cas-là, j'envoie un petit mot. Et
quand vous faites pas le truc qu'il faudrait faire, c'est pour un bon mot ou ça rejoint les regrets, les remords.
Oui, c'est ça. J'ai pas l'attitude qu'il faut, parce que je suis assez émotif. Alors donc quelquefois, je suis un petit peu vif, et donc après, je le regrette. Bon, et je trouve qu'on ne perd jamais rien à dire qu'on est désolé. Voilà.
Et vous dites, ce sont des belles lettres. Quelle est la définition d'une belle lettre? Vous parlez de la syntaxe, du français?
Non,
du...
oui, je fais attention à la manière dont je les écris. Voilà. Alors, je fais attention. Je trouve que... Parce qu'on vit avec les mails et les courriels maintenant. Donc, ça, c'est une solution. Mais une lettre, c'est autre chose. Mmh. C'est quelque chose d'un peu plus intime, un peu plus profond, un peu plus affectueux.
Non, c'est très personnel.
Voilà.
Vous en gardez une trace?
Non. Non, je ne regarde pas, mais j'espère qu'eux, ils les gardent. Je ne suis pas sûr.
Dernière question.
Quelle
émission aurait-il aimé présenter à la télévision? Reprendre.
Le Divan.
Ushuaïa.
Ou Culture.
Non.
Interville.
Une culture. c'est pas une culturelle, si.
La météo.
Non.
N'oubliez pas les paroles.
Vous ne jouez pas, Frédéric.
Bah, il n'a pas la réponse, donc il peut jouer.
Une émission.
Culte qu'il aurait aimé reprendre.
Les chiffres et des lettres.
Et finalement, ce n'est pas lui qui va la reprendre. Elle va revenir, mais ce n'est pas lui.
Oui, si. Chancel, le grand échec.
Exactement. Je crois que c'est Stéphane Bern qui le fera, me semble-t-il.
Encore ? Chaque fois que je me retourne, j'ai Stéphane Bern derrière moi.
Non, mais on ne veut pas connaître tout non plus, Frédéric.
Pardon,
il est derrière.
Ça, c'est sa place. Non, mais juste, c'est Anne-Sophie Lapix. Pardon, c'est pas Stéphane, c'est Anne-Sophie Lapix.
Non, mais j'aime beaucoup Stéphane Bern, attention.
Et on aime beaucoup Stéphane Bern et on aime beaucoup Anne-Sophie Lapix, il n'y a aucun souci. Non, mais il se trouve que ces deux-là, oui, je peux citer plein de gens que je n'aime pas. Mais pour en revenir.
Alors,
à part moi.
Pour en revenir, qui sont autour de cette table, tu veux. Ce que vous aimez dans cette émission, c'est la notion de grands entretiens à mener ou de show.
Oui, ce qui est bien toujours, c'est de mélanger un peu, c'est-à-dire d'avoir un grand violoniste et puis d'avoir un chanteur de variété,
provoquer des rencontres,
quelqu'un qui fait des bandes dessinées, etc. Oui, parce que c'est la vie même, et c'est ce que faisait très bien le Grand Échiquier avant.
Jacques Chancel. Oui.
Et pourquoi le Grand Échiquier pas refaire une émission dans cette veine-là, mais qui s'appellerait autrement et le format un peu différent?
Ben je sais pas, mais j'ai pas vraiment candidaté parce que je passe mon temps à faire d'autres choses, alors donc je me suis pas vraiment occupé. On m'a posé la question, c'est tout.
Auriez-vous envie à ce moment-là de revenir à une émission, qu'elle soit hebdomadaire ou mensuelle?
Oui, ça me plairait beaucoup. Mm-hmm. Ça me plairait beaucoup.
Et pas culturel, surtout... vu ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit pas culturel.
Mélanger comme ça, oui. Mais en fait, l'idée de la culture, ça se crée, ça se cite pas. Hein, parce qu'on dit toujours, vous allez faire une émission culturelle, alors on cite, je vais prendre telle personne. Mais non, la culture, c'est la manière dont on met les gens ensemble. C'est la manière dont on les interroge. C'est ça, c'est le fait de créer quelque chose qui est culturel. C'est pas simplement le fait de citer ce qui existe déjà.
Et surtout, visiblement, avec les mélanges. Une espèce de curie de culture, c'est ce que vous avez envie.
Comme par exemple ce qu'on est en train de faire maintenant.
Oui.
Voilà.
Mais ce qui est intéressant, c'est que
moi, je suis dans le rôle de la chanteuse et vous êtes dans le rôle des intellectuels. Voilà.
Prenez le rôle que vous voulez.
Mais ce qui est intéressant, que le Grand Échiquier, c'est que les audiences étaient somme toute assez confidentielles quand même à l'époque. Et on sort cette émission comme une référence et on a raison. Mais est-ce qu'aujourd'hui, faire une émission de culture à la télévision, ça entraîne pas une obligation de résultat?
C'est beaucoup plus difficile parce que c'est vrai qu'il y a une tension vers l'audimat permanente, quoi. Et alors, c'est le paradoxe,
mais
c'est que souvent...
Pardon, non, mais attendez, cette tension vers l'audimat, elle est légitime dans la mesure où même vous qui allez vous produire au Studio Marigny...
Bah, j'espère qu'il y aura du monde, oui.
Voilà.
Oui.
Donc, pourquoi, lorsqu'on est sur scène, au théâtre, on n'a pas envie d'avoir des fauteuils vides? Et pourquoi à la télévision, on devrait se dire, non mais c'est cool, il y a des fauteuils vides, on s'en fout?
Parce que Nagui, je serai pas dans une salle de 2000 places. Studio Marigny, c'est une salle qui est adaptée à ce qu'on fait. Mais en fait, on peut faire... Les grandes émissions culturelles, entre guillemets, n'ont jamais fait des audiences extraordinaires, mais elles restent des références absolues. Bernard Pivot est une gloire nationale, à juste titre, car il faisait pas autant d'audience que des émissions de variété à 8h30
bien
ou
sûr.
À 9h moins le quart.
Bien sûr.
Mais il est resté une référence. Et en fait, quand on cite ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, eh ben, tout de suite, on va chercher les émissions de Bernard Pivot, parce qu'il y a des entretiens qui sont extraordinaires, extraordinaires.
Oui, enfin, il y avait trois chaînes aussi, donc ça...
Voilà, oui.
La concurrence n'était pas la même, et la quête de l'audimat n'était pas du tout la même non plus.
Alors, on trouve, l'avantage, c'est que maintenant, il y a 500 chaînes, hein, en gros. On trouve toujours quelque chose à voir à la télévision d'intéressant.
Vous vous plaignez aussi du jeunisme. Enfin, vous remarquez que...
Moi, je me plains pas du jeunisme.
Contrairement vous dites aux États-Unis, tous les animateurs sont même plus vieux que vous.
Non, mais c'est incroyable. Aux États-Unis, on voit des types absolument cacochimes qui font des émissions extrêmement dynamiques. Ils arrivent, allez, salut les gars, etc. Et on se dit, mais où est-il? D'où vient-il, etc. Ça, c'est très, très curieux, ça. Oui. En France, c'est pas comme ça. Bon, c'est tout.
Ah, c'est tout. D'accord. N'en parlons plus. Donc, vous remontez sur scène sur scène pour la première fois.
Pour la première fois.
Qui a eu l'idée de réunir comme ça les morceaux choisis?
C'est mon producteur qui s'appelle Alexandre Beau et puis sa collaboratrice qui s'appelle Diane Delahaye. Ils sont tous les deux venus me voir. Ils m'ont dit, ça serait bien quand même que vous lisiez des textes, que vous disiez des choses. Et puis, finalement, je me suis laissé tenter. Mais
hors de question, je vous en prie.
En fait, j'ai toujours fait la même chose. Hein. On me dit toujours, il a été ceci, comme si c'était totalement dispersé. Mais non, pas du tout. J'ai toujours fait la même chose. J'ai toujours raconté des histoires.
À haute voix.
À haute voix, oui. J'ai toujours adoré ça.
Mais c'était pas toujours vous qui les écriviez, les histoires aussi, vous?
Presque toujours. Toutes les émissions que j'ai pu faire, toutes les biographies, toutes les grandes sagas historiques.
Alors, je suis mal exprimé. Sur moi. C'est vous qui les écriviez, mais elles n'étaient pas sur vous. Alors, la différence,
j'étais assez souvent sur moi aussi.
Indirectement. C'était votre vision
sourire. C'est vrai que ça soit filmé, qu'on voit le sourire de Nagui quand il dit « Ah, sur vous !»
Mais dites-moi, là, c'est vous qui racontez votre vie, votre mauvaise vie, comme vous l'appelez.
Oui, mais ça dérape pas trop, là. Il n'y a pas trop de violence urbaine ni d'égarement dans des quartiers difficiles.
Alors justement, ce sont des morceaux choisis. Vous avez fait aussi un tri.
C'est le Lagarde et Michard de Frédéric Mitterrand.
Vous avez...
Il n'y a pas... Dans le Lagarde et Michard, il y avait marqué toujours sur les pages sur André Gide, il y avait marqué « De retour d'Algérie où il est confronté aux ardentes surprises des oasis ». Alors, on se demandait ce que c'était que les ardentes surprises des oasis. C'était très, très...
Délicat.
Oui. Moi, je suis très Lagarde et Michard.
Un public jeune. Voilà. Justement, les morceaux choisis, vous avez voulu éviter quelques écueils ou quelques morceaux qui avaient créé polémique?
C'est pas par prudence. C'est parce que j'avais envie de faire quelque chose d'un peu tendre. Un peu mélancolique, peut-être, mais avec des moments amusants aussi. Et en fait, j'avais envie que ce soit tendre. Et donc, la provocation ou la violence que je peux pratiquer, comme tout le monde, ça n'allait pas avec cet exercice.
Il fallait trouver un juste équilibre entre mauvaise vie, le festival de Cannes et mes regrets sont des remords.
Oui, c'est ça.
Et parce que j'ai l'impression que quand même les regrets et les remords sont très...
Et puis une adolescence aussi, hein, qui est un livre que j'ai écrit, que j'aime bien, où je raconte comment, enfant, j'étais partagé entre l'admiration que je portais à mon oncle et celle que je portais au général de Gaulle. C'était compliqué pour un enfant. Parce que
cette fameuse histoire dont vous nous aviez raconté ici, à ce micro, la manière dont vous
êtes... En général, ça fait rire les gens.
Allez saluer le général.
Oui. Moi, ça me fait rire aussi encore.
Et quel regard vous portez sur vos textes qui ont été publiés il y a déjà quelques années? L'idée de les lire, de les jouer, de les incarner sur scène?
Il y en avait beaucoup. Il y avait la possibilité d'en lire plus d'une centaine. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que sur beaucoup de mes textes, je les écris un peu comme des chansons. Mm-hmm. C'est-à-dire, ce sont des textes qui font 3 minutes, 4 minutes. Et donc, il y en avait à peu près une centaine. J'ai essayé de choisir ceux qui racontaient un peu le parcours d'une existence, et avec toujours cette idée quand même de la tendresse. Au fond, je voulais faire quelque chose où je pensais que, et mes frères, qui généralement me gourmandent un peu, et mes fils... serait pas gêné, serait content de venir.
Et vous aimez toujours vous relire, parce que parfois il y a des auteurs qui ont du mal à repasser sur les textes d'il y a 10 ans.
Je me relis pratiquement jamais, mais là en l'occurrence quand il a fallu choisir, je me suis relu. Et en fait je me suis rendu compte, ça a l'air très vantard de dire ça, mais c'est la vérité, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques textes qui tenaient la route, qu'on pouvait dire sur une scène.
Bien sûr, Ça sera une lecture au sens propre du terme, vous avez vraiment le papier en main, lisez le texte, vous l'avez tellement en tête que vous allez jouer.
Non. J'ai le texte parce que il y a dans la lecture il y a une manière de comme ça d'adapter le rythme aux phrases. C'est comme des chansons, en fait. C'est vraiment comme des chansons. Et disons qu'il y a une sorte de musique du texte. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a des images aussi. Je montre des images qui m'ont frappé dans mon enfance. Par exemple, les images d'un film italien que personne ne connaît, pratiquement, et qui est un film absolument magnifique qui s'appelle « Amis pour la vie ». L'histoire de deux copains qui se séparent,
ouais.
et c'est un film très touchant. Alors on va mettre un extrait de ce film.
C'est un film de qui?
C'est un film de Franco Rossi plutôt, pas Francesco Rossi, mais Franco Rossi. Francesco Rossi, c'est celui qui était célèbre, et Franco Rossi n'était pas célèbre, mais quand même il a fait un très beau film qui s'appelle Amici per la pelle, et Amis pour la vie. Ça a été toute une histoire de retrouver le film. Finalement on l'a retrouvé. Et alors, c'est quand même très curieux, parce que c'est un film que j'ai vu quand j'avais 10 ans, qui m'avait complètement bouleversé. Je l'ai revu il y a quelques années, et les enfants souvent ne se trompent pas. C'est un très bon film. Vu bien des années après, c'est toujours un très bon film.
Vous comprenez toujours pourquoi vous aviez été ému,
voilà,
à 10 ans.
Voilà. Et alors en plus,
c'est... Et alors pardon, pourquoi? Ce qui vous avait ému, c'était cette amitié pour la vie entre deux garçons.
Oui, c'est-à-dire c'était l'idée. Oui, mais c'est pas que le fait que ça soit, ça pourrait être un garçon.
Non,
une fille, c'était pas. Il se trouve, c'est deux copains de classe.
Ouais, pardon.
C'est deux copains de classe. Voilà.
Il y avait aucun sous-entendu dans ma question.
C'est deux. Et d'ailleurs, c'est un film très chaste, très pur comme ça. Et c'était deux copains de classe. Moi, j'étais enfant, j'étais toujours bouleversé quand arrivait le mois de juin. Parce que c'était beau, c'était l'été, on allait partir en vacances,
et on
allait
se
séparer.
Et voilà.
Ouais. Et on savait jamais.
Et ça durait une éternité, voilà, jusqu'à la rentrée de septembre.
Voilà. Et on savait jamais si on allait se retrouver. Mmh. Et moi, je cultivais beaucoup l'amitié. J'étais un bon ami, j'étais un bon camarade. J'étais pas, voilà. Et donc, c'était un déchirement pour moi. Et un jour, je vois ce film. Voilà, ça racontait ça. Ça racontait ça d'une manière absolument parfaite. Alors, vous savez, c'est toute une histoire. Parce que, du coup, je me suis dit, en préparant le récital, en quelque sorte, je me suis dit, mais est-ce que les acteurs existent toujours? C'est un film qui date de 1955. Eh bien, je les ai retrouvés. Ils vivent toujours. Je les ai eus au téléphone.
S'ils étaient enfants en 55.
Ah, ils ont entre 75 et 80, ouais, maintenant, hein. Parce que le film, je l'ai vu en 55, mais ils avaient 12 ans, quoi. Bon,
Geronimo Meynier et Andrea Schirret, c'est
ça? Voilà, ils ont des noms formidables. Et donc, je les ai retrouvés tous les deux. Et je suis en train d'écrire un texte sur le fait que le souvenir est tellement endurant. Mais vous savez, là, on est dans le public, on est avec vous, etc. Mais je pense qu'on a tous, comme ça, des souvenirs d'enfance qui durent.
Heureusement,
c'est comme ça qu'on se construit. Ouais. Et tout ce qui se passe dans l'enfance jusqu'à 20 ans, à peu près, ça marque d'une manière incroyablement forte. Alors, c'est un peu ce que je raconte sur la scène du studio Marigny.
Ça sera à partir du 23 novembre, après-demain, donc jusqu'au 6 janvier, au studio Marigny. J'ai pas l'horaire, par contre, de...
21h.
À 21h,
c'est pas mal, 21h.
C'est chic. Ouais. Lecture de Frédéric Mitterrand, mais par Frédéric Mitterrand, qui va lire ses propres textes très intime, c'est votre vie que vous racontez avec différents prismes.
Intime mais pas gênant, je crois, pour les gens qui les écouteront.
Voilà. C'est clair. Et ça sera donc au théâtre Marigny. Ça va, évidemment, il y aura
succès.
Pas un strapontin vide de carton, d'accord?
Évidemment, carton.
Ça, pas,
pourquoi?
Ouais.
Parce que c'est Frédéric Mitterrand, oui, Fredo. Enfin, et ça suffit pour être un carton. Tout ce qu'il touche, tout ce qu'il fait, c'est un carton. Animateur, réalisateur. C'est trois fois chez moi. Hein. Animateur, réalisateur,
pas,
producteur, auteur, exploitant de cinéma, ministre de la culture, directeur de Villa
Médicis. Voilà, la pochette surprise.
Pas encore membre de l'Académie française, mais ça va venir. Ça va venir. Ah, oui. 71 ans, vous êtes encore un peu jeune pour
après
être un immortel. Kini, mais bon,
après tous les autres, oui.
Oui, voilà. Mais bon, il y a 2-3 places qui se sont libérées dernièrement. Non, mais c'est fou. Tout vous réussit, Frédéric. C'est incroyable. Hein. C'est... Faudrait inventer des nouvelles disciplines,
enfin,
peut-être.
C'est une manière de présenter
le temps,
les
Frédéric,
choses.
Vous me le dites. Hein, y a pas de... Vous allez me couper tout le temps?
Non. Bon, d'accord. Je me tais.
Non, mais il y a plein de choses.
Je me concentre sur les dessins, là.
Très bien. Il n'y a pas de souci.
Et hop, il y a marqué, là.
Vous me dites.
Oui, mais je me tais, d'accord.
Non, il n'y a pas de souci. Non, bon, en tout cas, non, mais c'est vrai qu'on le reçoit pour Bonsoir 2 et par Frédéric Mitterrand. Le concept est simple, on le rappelle pour nos auditeurs qui viennent nous rejoindre à l'instant. Vous montez sur scène pour lire vos textes, des livres que vous avez écrits. Du coup, moi j'ai une question, est-ce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même?
Non.
Visiblement, pour vous, la réponse est oui. Non, mais c'est vrai, mais vous montez sur scène pour la première fois, aucun risque d'avoir un trou de mémoire, de tomber sur un texte pourri. Les textes, ils sont de vous et vous les lisez. plus de sécu, c'est pas possible. Tu sais, ça me rappelle mon grand-père quand il faisait ceinture et bretelles. Il y a pas de risque. Là, c'est très à la mode. Très à la mode.
Ceinture et bretelles.
Ah, voilà, il y a zéro risque. Très à la mode, le homemade. C'est vrai. Maintenant, tout le monde fait ses trucs soi-même. On fait nos vêtements nous-mêmes.
C'est rassurant.
Ouais, c'est rassurant. Ce week-end, j'étais au marché Saint-Pierre à Paris. J'ai acheté un rouleau de wax. Je me suis fait des t-shirts faits maison. Ouais, bon, t'as une manche qui est plus courte que l'autre. On sait pas si c'est un col V ou un col rond. On dirait que tu sors d'une bagarre. Non, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ceux qui font pousser leurs légumes sur leur balcon, mais à Paris. Ça, ils ont trois pots en terre cuite. Ils ont trois pots en terre cuite. Il y a deux tomates cerises qui se battent en duel. Et ils se prennent pour José Bové. Eh, regarde! Pas de pesticides, pas de Roundup dans le cul Monsanto. Ouais, mais alors, les tomates, elles ont quand même un petit goût de gasoil. Ouais. Ah, c'est des olives. Bah voilà, autant pour moi. Non, mais on fait nos cosmétiques nous-mêmes maintenant. La copine a fait ses crèmes elle-même à la maison avec du fromage blanc, blanc d'œuf et une pointe d'amaretto. Je lui dis, la prochaine fois, rajoute du café et deux boudoirs, ça fera un tiramisu. Non, mais c'est vrai. Très à la mode, les cosmétiques maison. Mais c'est vrai que dans la vie, en général, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça marche pas toujours. Regardez au resto, où est-ce qu'on n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes? Au McDo. Et souvent, c'est dégueu. Bref, vous avez raison de monter sur scène, Frédéric, lire vos propres textes et dites-vous que si c'est pas vous qui le faites, ça sera Luchini. Allez, bonne émission.
Bravo, bravo. La bande originale,
Mandy, sur France Inter. Justement, ces textes extraits de La Mauvaise Vie, du Festival de Cannes, Une Adolescence, Mes Regrets sont des remords. Ces quatre livres que vous aviez publiés entre 2005 et aujourd'hui, il a fallu donc choisir les morceaux et les ordonner aussi. Donc, est-ce qu'il y a pour vous une logique verticale dans la construction ?
Il y a une chronologie.
Uniquement ?
Oui. Je suis les années telles qu'elles se sont passées, voilà.
Parce qu'il y a beaucoup de.
Et il y a un dernier texte qui n'a rien à voir. Il y a un dernier texte qui n'a rien à voir, qui est un texte, alors là, pour le coup, assez violent, mais en fait, où je parle pas de moi, où je parle d'un événement auquel j'ai assisté.
Un soldat allemand.
Oui. Et je trouve que c'est un texte assez.
Mais vous l'aviez déjà écrit, ce texte?
Oui, j'avais déjà écrit.
Alors pourquoi vous dites il y a un texte différent à la fin?
Parce que c'est quand même un morceau choisi. Parce que c'est pas choisi. c'est pas moi qui suis dans l'histoire. Tandis que dans les autres, c'est des trucs que j'ai traversés.
Alors vous n'avez pas eu envie d'écrire un nouveau texte, soit pour introduire, soit pour conclure
Parce que vous savez, c'est un gros travail, en fait, de choisir les textes, de bien les calibrer, de savoir ce qu'on. Il y en a. J'en avais plus encore pendant les répétitions, et puis j'en ai retiré parce qu'ils étaient un peu trop longs, donc j'avais pas le temps de me concentrer là-dessus.
Donc vous avez pensé au rythme essentiellement du spectacle.
J'ai pensé au rythme. Voilà.
Vous avez coupé dans les textes ou pas?
Non, j'ai pas coupé. Okay. Non, j'ai pas coupé.
Et ça reste un spectacle, comme vous le dites. Il y a des projections,
Il y a des projections, il y a plusieurs extraits de films, il y a des musiques aussi, enfin des choses comme ça auxquelles je tiens. Des jeux de lumière, pas très compliqués, mais j'ai un merveilleux. Olivier Fredge, qui est très très gentil en plus, qui supporte toutes mes incapacités, et donc ça se passe
pas vos humeurs, ça va, vous êtes d'humeur égale généralement.
Non, mais moi je suis un garçon gentil, moi, je suis pas difficile.
Ce qui n'est pas pareil qu'un gentil garçon, que voici Guillaume.
Oh, c'est gentil. C'est lui le gentil garçon.
Ça va les amis, ça va les amigos.
Oui.
Vous me connaissez, je suis ce que la science appelle un homme d'alcool, comme vous Leïla. Oui. En fait, si vous aviez ne fût-ce qu'une petite prostate, mais non, madame préfère faire cavalier seul avec ses organes de fille. Ok, super, bravo la solidarité. Bref, l'autre soir. Très bien. Je sors un peu alcoolisé d'un débit, comme toujours, hein, comme je commence mes phrases par l'autre soir. J'adorerais vous dire, bref, l'autre soir, je sortais de l'Institut Pasteur. J'avais bidouillé un petit vaccin contre l'hypertension et le Vatican. Pas normal. Non, je suis pas comme ça. Non, je suis pas comme ça, malheureusement. Soit je sors du bar, j'appelle un Uber et il s'avère que le conducteur Uber est une conductrice. Voilà, la bonne quarantaine, volubile, sympa, on se met à papoter.
Épanouie.
Voilà, je lui demande tout ce qu'on demande généralement au conducteur Uber, glyphosate, un mal nécessaire. Enfin, tu vois, des trucs simples, quoi. Je dirais pas qu'on devient copain. Ah, c'était quoi votre relation avec vos parents? Enfin, des trucs simples. Je dirais pas qu'on devient copain, mais on se
connaissait Frédéric Mitterrand.
et du coup, je lui dis, tiens, au fond, vous qui roulez la nuit, est-ce que vous n'avez jamais de problème avec des gens alcoolisés? Sous-entendu, je connais les confrères, je sais comment ils peuvent être, est-ce que ça va, est-ce qu'ils se tiennent bien? Sinon, je passe deux coups de fil, je fais une chronique qui dénonce, j'appelle le Raphaël Glucksmann, enfin tu vois, je fais un truc. Et là, la dame me répond, alors là, pas du tout, je roule la nuit depuis des années, j'ai jamais eu le moindre problème. Et j'ai dit, ah voilà, elle est là. Est-ce qu'on leur dit pas, franchement,
c'est vrai,
on en fait tout un foin de l'alcool alors que c'est pas pire que la mousse au chocolat. Et la femme me dit, ah si, pardon, j'avais oublié, un soir, il y a un client qui s'est masturbé sur moi, j'étais obligé de débarquer sur le périph.
Quelle horreur.
Et je fais, what? Ça, vous l'aviez oublié. Comment t'oublies ça, moi, le jour où Nagui s'est masturbé sur moi? Je dis pas qu'il y a eu un avant et un après, mais ça a quand même marqué, tu vois. J'avais dit patron, allez.
Mais c'est bon, ça fait de la crème pour le visage.
Oh non!
Oh putain,
c'est bon, c'est des cellules fraîches.
Frédéric, ouais. Il est 11h30.
Il n'y a pas d'heure,
Frédéric, il a pillé le gars. C'est pas moi qui l'ai dit, moi.
Gardez un peu de mystère, Frédéric.
Je suis désolé.
Vous avez un très joli grain de peau, Frédéric.
Non, non, mais j'essayais d'apporter une notion touche, scientifique.
Une touche personnelle. Oh, oh putain, il m'a giclé dessus, la vérité. Non, non.
C'est
que l'eau, c'est que l'eau, c'est que l'eau.
Explosé. J'essayais de me calmer en ouvrant une bouteille d'eau. Et
oui, explosé la bouteille d'eau. C'est de l'eau.
Voilà. Bon, alors, continuons.
Bah ouais, merci, super, comment
je fais. Je suis désolé.
Bref, donc la dame, ça m'a halluciné de voir à quel point elle était détente, quoi. Donc je lui ai fait, vous avez sorti le mec sur le périph. Elle me dit, ouais, j'avais pas laissé se branler dans ma Citroën, tu vois, bonne réponse, 4 ouais. à la suite, bien joué, mon motus, tu vois. Enfin, j'ai trouvé ça fantastique. Je me suis imaginé ce vieux pervers, là, ce gag à la main sur le périph, à essayer de se finir sur le terre-plein central, tu vois, avec des routiers qui passent et qui le jugent, tu vois, l'air de dire, ça, même nous, t'es seul, frère, dans ton délire. Vraiment, et c'est ton lutris super. Comment elle a pas fait direct? Vous êtes bien, monsieur Ernesto? Voilà, vous avez une petite bouteille d'eau, là, si vous avez soif. Tiens, en fait, je vous ai pas raconté la fois où il y avait un mec, la nuit, il était à votre place. Mais figurez-vous qu'il arrive porte de Saint-Ouen. Je me retourne. Non, voilà. Moi, si ça m'était arrivé à moi, j'aurais mis une plaque commémorative sur le siège. Faut pas demander à quel point les femmes, elles intériorisent, les comportements chelous, quoi. C'est un truc de fou. Et moi, je savais pas comment réagir. S'il fallait que je dramatise, que je dédramatise, alors j'ai fait ce que je fais toujours dans ces cas-là. J'ai fait une blague. Je lui ai dit, et du coup, aujourd'hui, vous avez toujours eu sopalin avec vous, au cas où?
Ah,
oh,
non.
Ouais, moi, je pas de miracle, hein, c'est comme ça. Si j'étais Pierre Desproges, ça se saurait, tu vois. Mais bon. Mais je vous promets, sur ce que j'ai de plus cher au monde, que la dame, elle a ouvert sa boîte à gants, il y avait une pile de sopalins. C'est pas une blague, je vous jure. Je vous promets, elle me dit, je vous rassure, c'est pas pour que les gens se masturbent, elle a dit, c'est parce qu'il y a des gens qui pleurent quand les personnalités meurent. Genre France Gall, Johnny, etc. Donc elle a plein de sopalins.
Ça s'appelle des mouchoirs, pas des sopalins.
Voilà, moi j'appelle ça comme jeune Belgique, j'ai mon vocabulaire, donc c'est moi tranquille.
Sa différence.
Je vous promets, les Français, moi je serai jamais prêt pour vous. Allez, bonne marche contre la violence faite aux femmes samedi. Et bonne émission, les amis.
Ah oui,
bravo,
exactement.
Bravo,
samedi.
Bravo,
Guillaume. Bravo, Guillaume. Vous allez encore faire des trucs bizarres ou bien c'est la fin?
T'en as fait des chroniques, Guillaume, et celle-ci, elle était bravo.
Tu pourras mettre une blague en disant ici, Frédéric Mitterrand, j'ai clé sa bouteille sur moi.
Voilà, sa bouteille, il faut préciser.
J'ai bien dit sa bouteille.
Tout va bien.
Sa bouteille.
T'en as partout.
Justement,
elle a l'air sec.
On peut passer au tchot? C'était pas la question.
Ça a l'air mouillé.
Frédéric, ça a pris combien de temps pour préparer ce spectacle? Ça fait quand même quelques mois qu'on n'avait pas de nouvelles de vous. Vous travaillez.
Non, mais j'ai fait plein de trucs. J'ai fait un film sur Dior qui est passé pendant l'été, 2 fois 90 minutes. J'ai fait un film sur Trump. Qui a fait un gros buzz.
Vous dites d'ailleurs, il est intelligent, ce qui est une phrase qui peut choquer certaines personnes.
Mais non, je pense que la grande erreur qu'on a faite, c'est de penser qu'il était bête. Il est primaire, mais il est intelligent. Il est intelligent, il a une énergie absolument incroyable, et il n'a aucun principe.
Il est dangereux?
Oui, il est dangereux, oui. Il est très dangereux.
Mais il est d'autant plus dangereux qu'il est intelligent, vous pensez?
Oui. Il serait stupide, on arriverait à le coincer. Mm-hmm. Et là, on n'y arrive pas. Et donc, le film a eu un certain impact quand même, parce que justement, j'ai essayé de raconter qu'en fait, c'est un personnage des films de Scorsese, c'est le parrain de Manhattan, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est formé en se battant avec des types qui étaient aussi durs que lui à Manhattan.
Bon, enfin, il s'est pas trop battu, il a juste hérité des milliards de son père.
Non, non, alors ça c'est une légende. Il a hérité de l'argent de son père,
bah oui.
Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Enfin, il en a fait beaucoup lui-même.
Il n'est pas parti de rien non plus.
Non, il n'est pas parti de rien, mais bon, ça c'est pas... Voilà, ça n'explique pas le fait qu'il ait été aidé par son père, ça n'explique pas que ce type avait une espèce de rage de tuer, en quelque sorte, qu'il a hérité de l'école dans laquelle son père l'a mis, et ça je raconte ça assez en détail, en ayant trouvé beaucoup de choses, et voilà. Et donc j'ai essayé de, je pense qu'il faut essayer de comprendre, et que quand on comprend, on combat mieux. Si on comprend pas, si on en reste dans des fantasmes, on se fait avoir.
C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Dans cette bande originale, au-delà de discuter avec Frédéric Mitterrand et de parler de ses lectures au studio Marigny en live.
Soleil, soleil, des jours sans fin.
C'est la voix de Tim Dup.
C'est toi le pauvre concombre, cette fille si bien qui mesure pas la.
Alors écoutez bien les paroles de cette chanson qui s'appelle Mortel Habanera.
Tu sais, toi le pauvre concombre, cette fille si bien qui mesure pas la chance qu'il a. Profite tant qu'il en est encore temps, car au bout d'un moment, ça va cesser, ça lui passera. Et toi, la fille si bien qui se laisse embrasser comme une traînée. Prends bien conscience que t'es carrément moche et que je méprise ta beauté. Vous qu'êtes si beau enlacé, main dans la main pour le pire et le meilleur des mondes. Sachez que je vous hais, que je vous en veux, que je vomis votre amour immonde. Ah là, tu me regardes, parce que vulgaire, je deviens un peu visible au milieu des corps et des visages.
Avant ce texte, cette musique, cette voix, il s'appelle Team Dub, il est en live dans cette émission pour demain peut-être. Team Dub.
Combien de larmes, de gouttes de sel et de ciel noir, de voix qui appellent. Combien de perles de sang chaud, de tristes fresques et de tableaux. Combien de tonnes de troubles poussières. Des je m'étonne, c'est quoi la guerre. De bons sentiments à l'eau de rose, couler du ciment, aucune pause.
Ce piano, puisque c'est lui qui s'accompagnait au piano. Team Dup, l'album s'appelle, c'est son premier album, s'appelle Mélancolie Heureuse, une forme d'oxymore, puisque tout est basé là-dessus. On en avait déjà parlé tous les deux à la télévision française, maintenant on en parle à la radio française. Tout va bien, Tim?
Super, merci beaucoup.
Ravi de vous accueillir, en tout cas. Oui, je parle d'oxymore, de ce mélange de chaud et froid et de mondes qui vont pas forcément ensemble, comme le soleil noir que vous chanterez tout à l'heure. Là, on en est avec la mélancolie heureuse. Vous jouez beaucoup là-dessus, sur les deux formes. Quand j'ai passé Même Mortel à Banera, c'est aussi une déclaration d'amour et de haine pour une personne qui est belle et que vous traitez de moche.
Exactement, ouais. J'avais pas calculé cette idée-là, ce concept, mais en fait, cet album parle beaucoup de dualité, de construction, de déconstruction. C'est voilà l'état dans lequel je l'ai composé entre enfance, fin d'adolescence et adulte, et voilà avec tout ce lot-là de convictions qui se forgent et en même temps de beaucoup d'incertitudes aussi.
Alors vous jouez avec les mots magistralement, c'est extrêmement bien écrit, on parlera ensuite de la musique, mais le travail d'écriture, il se fait d'une manière laborieuse ou c'est au contraire une écriture presque
un jaillissement,
instinctive, ouais, ouais. C'est ça ?
Oui, c'est assez spontané. J'aime pas. Alors forcément,
c'est pas avec le dictionnaire des synonymes et des antonymes.
Non, on retravaille forcément le texte un peu pour que les mots collent et puis surtout rentrent dans les mesures comme on en a envie. Mais non, ma façon d'écrire, j'essaye de surtout pas provoquer quelque chose, mais de laisser l'inspiration venir. Et quand j'ai une idée, si elle est pas encore assez forte, justement, de pas écrire tout de suite.
Laisse-moi m'envoler, m'affranchir de ces chaînes, de nos corps étriqués, cette lamentable rengaine. Laissez-moi m'étrangler, franchir ces rivières, la gravité me fait chier, je ne veux être que l'air.
Alors justement, ce que j'aime dans cet extrait, c'est que on peut vous voir comme ça, comme un jeune homme bien élevé, sage, bien coiffé, l'arrêt sur le côté, propre sur lui.
Il est super mignon avec un sourire absolument craquant. Hein.
Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Référence supplémentaire.
C'est ce que je voulais dire. C'était une autre manière de le dire, mais c'était ça. C'était
Merci
ça.
Beaucoup.
Non, côté beau gosse, je suis d'accord. Mais
c'est vrai que vous êtes pas mal.
Avec.
Et qu'est-ce qui nous arrive
si, voilà, ça dérape. Enfin.
Je sais que toi, tu vas pas sortir indemne d'ici. Hein. Mais
je suis là.
Une petite bouteille d'eau.
mais il y a quelques horreurs, il y a quelques gros mots comme ça que vous lâchez entre guillemets.
C'est pas jeune.
Voilà. Mais vous aimez ça aussi,
ouais,
choquer.
C'est pas l'histoire d'être jeune, je pense, mais j'aime bien cultiver un paradoxe aussi. C'est toujours plus facile de se fier à ce qu'on voit des gens. Et j'aime bien justement avoir un contre-pied là-dedans.
Une surprise.
Comme les cendres rosées d'une clope dans la nuit, comme l'odeur vanillée d'une robe fleurie. Belle, belle, évanescente, celle d'une envie méchante.
Même ça, envie méchante, oui, c'est ça. Il y a tout là-dedans, c'est-à-dire que une méchante envie c'est une chose, une envie méchante c'en est une autre, et vous jouez justement avec cette interprétation, c'est-à-dire que chacun aussi peut se l'approprier.
Bien sûr, cette chanson-là parle pas de moi en plus, donc c'est ça qui est agréable dans les chansons, c'est justement de se mettre parfois dans la peau d'autres personnes, d'autres personnages. J'essaye à tout prix de pas avoir justement une image de personnage en tant qu'artiste, de parler des choses que je vis, qui me touchent. Mais par contre, de trouver des sujets d'amorce pour exprimer d'autres choses dans lesquelles finalement moi je me retrouve pas forcément. C'était l'idée de cette chanson, ouais, de parler de ce côté un peu de cette imperfection qu'on demande beaucoup à tout le monde en fait, sur tous les réseaux, sur les machins, avec une image qui est très prépondérante et qui en fait rend parfois les gens mal à l'aise. Et c'était voilà une histoire d'une fille qui justement à force de vouloir être parfaite finit par se tirer une balle.
Quel a été votre cursus, votre parcours ? Il y a eu des études littéraires, vous maniez extrêmement bien la langue, que ce soit à l'écrit comme à l'oral.
J'ai fait des sciences sociales et après des médias et com pour essayer de trouver un pont avec la musique. Mais non, j'avoue, je suis pas forcément un gros lecteur. Je vais pas bullshiter et dire que j'ai lu beaucoup de littérature, c'est pas forcément le cas. Mais c'est clair que les maths, ça a jamais été mon truc.
Non. Vous aimez les mots. Ces mots auraient pu donner en musique aussi du rap, du slam, donner autre chose. Et là, ça donne de la musique plus chantée que rappée. Ce qui correspond d'ailleurs à un mouvement que l'on sent clairement dans la chanson française. Et tant mieux, parce que on parlait tout à l'heure de la force des métissages. Vous prenez ce qu'il y a de meilleur ou ce que vous aimez en tout cas le plus dans les différents domaines. Mais vous êtes posé la question à un moment de rapper ou pas. Tout à l'heure, vous allez faire une reprise d'Orelsan.
Je me suis pas vraiment posé cette question-là parce que j'ai pas l'ADN hip-hop. Moi, c'est un style musical que j'ai découvert sur le tard, qui pour le coup me lâche pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu quand même en esquisser des bouts dans l'album. Il y a quand même une notion de hip-hop, mais dans le côté métissé justement, et pas forcément rappé. Et pour la suite, justement, c'est.
Alors, vos racines musicales sont lesquelles? Alors,
c'est de tout, en fait. J'ai écouté vachement de pop anglo-saxonne quand j'étais petit, de la folk. Ensuite,
qui, par exemple?
Bob Dylan, les Beatles, Cat Stevens, les Cure aussi. Ensuite, j'ai écouté de la chanson. J'ai joué dans des groupes de rock, de pop, de reggae. J'ai fait du classique et du jazz avec le piano. Et en vrai, c'est ce que je cherche avant tout quand j'écoute quelque chose. C'est juste de l'émotion et pas un style en particulier.
Étoiles couchées dans la nuit face à l'océan sourdine.
Il faut préciser que c'est une réédition de votre premier album avec des remixes, dont celui-ci. Fin août, c'est Yuxek qui s'est collé à la régie. D'autres remixes justement de Mortel Habanera.
Je ne connais pas la violence, mais je pourrais l'apprivoiser. Quitte à mourir ce soir, je pense qu'alors ensemble.
La première fois que vous êtes fait remarquer, c'était avec ça ?
Soir et matin, je change de wagon, je change de train. Il y a de tout dans ce train, des gens qui dorment, des chiens qui pissent, des femmes enceintes, des enfants bruyants.
Vie de banlieue.
Ouais, vie de campagne presque plus.
Ouais, le TER, ouais.
Ouais. C'est vrai que c'est une chanson qui a touché les gens, je crois, parce que, et moi j'avais pas calculé ça non plus, mais il y a un truc très, très banal, très quotidien en fait, et j'ai eu du mal à retrouver quelque chose d'aussi urgent que ce texte-là, justement.
Le trajet, je le connais par cœur. De la campagne à Paname, dans les banlieues, les trams s'ébranlent dans le froid sous un soleil de plomb. À travers les nuages et la pluie dans le brouillard hivernal, on est serré. Tu suffoques des minutes entières et quand le train s'arrête et que les portes glissent, les rails se mettent à grincer, à gémir de douleur, elles crissent, elles frémissent.
Team Dup en concert le 23 novembre à Porte-les-Valence, le 23... Ah, c'est marrant ça, le 23 novembre vous êtes à Porte-les-Valence et le 23 novembre vous êtes à Oyonnax. Il y a un moment où il va falloir quand même nous dévoiler votre frère jumeau.
Je crois que c'est le lendemain.
C'est le 24
hein. Oyonnax.
D'accord, le 24
Oyonnax. Renseignez-vous quand même.
C'est magnifique Oyonnax, tu vas voir, c'est extraordinaire.
C'est vrai.
Le 24 à Oyonnax, ah mais salaud, ça va pas non. Le 27 à Noisy-le-Grand, le 28 novembre à Allonnes, le 29 à Nantes, le 30 à Saint-Genis-Laval, le 1er décembre à Lorient et le 5 décembre à la salle Playel. Allez le voir, allez l'applaudir Team Dup.
Besoin soudain de vouloir prendre l'air, de son ivre et de visage et de couleur, prendre un peu le temps, un bain dans la mer, se sourire et se plaire, les cerisiers en fleurs, attendre la nuit.
Alors j'ai dit qu'il y avait des remixes et aussi des inédits, hein, comme Mourir avec toi, que je vais retrouver, qui est forcément le... Bon, tant pis, c'est ma vue.
Ah, la cataracte.
J'étais sûr de l'avoir.
Mais on peut bien.
Je l'ai pas, le...
Que possiblement tout ouais, ça n'est que les gens iront écouter.
C'est sûr. Ah non, je l'ai. C'était la deuxième page.
Dans tes bras de soir, sous un ciel plus vieux.
Là, on trouve votre influence Compagnie Créole un peu.
Tikalikao, Tikalikao.
Avant l'heure de là, c'est ton sel, ton feu pour brûler ma voix.
Merci d'être venu et surtout bravo.
Vous avez
un sacré talent, monsieur Tim.
Merci à
l'original. À tout à l'heure. Encore deux titres.
La bande originale.
Dans cette bande originale, nous allons évoquer en musique encore la vie, votre vie, Frédéric Mitterrand. La musique vous accompagne
non,
d'ailleurs.
On ne fera pas ça aussi bien que Tim. Hein. Non, Tim a un talent fou, comme Tim vous venez de le dire.
Vous êtes d'accord?
Ah oui, un talent fou. Mmh. Vraiment. Hein. Moi, j'en ai entendu beaucoup quand même. Et je le trouve absolument formidable.
Non, puis il dégage...
Oui, il dégage. Il y a une espèce de fraîcheur et de poésie formidable. En plus, il n'est pas prétentieux, il est sympa. Enfin... voilà, c'est un nouveau.
Il coche toutes les cases. Ouais.
Bien, il coche toutes les cases. Ouais. Hein. Ouais,
et en plus, c'est un mec bien. C'est-à-dire, vous savez, quand on
va.
Non, mais on a fait plusieurs taratata ensemble. Vous voyez les artistes vivre déjà, être polis avec tout le monde, dire bonjour, dire merci, dire au revoir. Oui. Basique, et c'est pas le cas de tous les chanteurs.
Et il est tout jeune en plus, il a 24 ans.
Et
il est incroyable.
Il est normal, il fait des bonnes reprises aussi. Tout à l'heure, il va nous offrir une reprise d'Orelsan. Partons, et j'adore ce titre que vous avez choisi, le premier que vous avez choisi, mais je suis tellement fan d'Adriano Celentano.
Ah,
ouais. Stand by me.
C'est un génie.
Che hai la notte nel cuore e se tu lo vorrai crederai.
Mais vous l'avez découvert en Italie, vous le connaissiez déjà dans les années 60.
Je le connais depuis l'enfance, depuis que je l'ai entendu.
Et alors, Breeze and Cold,
et quel look
je trouve, qu'il faut tous sur YouTube pour regarder le concert de Vérone qu'il a fait il y a 5 ans où il avait demandé que les places soient à 5€. Pas plus.
Dans les arènes.
Alors, il faut, dans les arènes de Vérone.
Il faut préciser que Adriano Celentano est un chanteur.
Oui.
Il est comédien.
Oui.
Il a été animateur de télévision et presque homme politique.
Oui.
Donc sa démarche de dire les places 5 euros, c'est aussi une démarche politique.
Oui, c'est ça. Et le concert dans les arènes de Vérone, c'est pas l'Italie de Salvini, hein.
C'est ce que je voulais dire. Ouais.
C'est une chose, c'est une chose tellement belle à voir, mais c'est absolument mais bourré. Il y a des gens dehors sur des écrans, etc. Et tous les gens chantent les chansons de Adriano. C'est incroyable. Ce type est d'une générosité et d'une folie aussi, parce qu'il est un peu fou quand même.
Bah, il avait inventé une langue qui n'existait pas quand il avait fait Prison Called in National Cuso. Le truc, ça l'amusait.
Oui, c'est lui qui a quand même
très drôle, en plus.
Lancé la phrase Caramelli non le voglio più, je veux plus de bonbons. Il chantait ça à la place de parole.
Et vous avez choisi cette musique pour illustrer l'année 1960.
Oui.
C'est votre première apparition au cinéma,
oui,
aux côtés d'une actrice notamment.
Michel Morgan.
Il y avait quand même Bourville.
Ah oui, mais c'était deux personnes formidables, hein, formidables, tous les deux.
Le film Fortuna, vous l'avez revu récemment ?
Je ne l'ai pas revu, mais alors il repasse tout le temps.
Oui. Ouais. Voilà. Et quel est le souvenir
que vous gardez ? Ça correspond d'ailleurs un peu à l'histoire de Amici per la pelle, parce que finalement j'ai été acteur moi aussi, quand j'étais petit.
Comment vous êtes retrouvé là-dedans ? Parce que c'est vos parents qui vous ont emmené au
casting ? Non, pas du tout, j'ai lu une annonce dans un journal et j'y suis allé tout seul. Et je pense
contre l'avis de vos parents ?
Non, ils ne savaient pas. Et le fait d'y être allé tout seul... À mon avis, ça a attiré l'attention des gens qui faisaient le casting, parce que tous les autres enfants, ils étaient avec leurs parents, qui disaient, regardez le mien, comme il est mignon, etc., les photos, les téléphones et tout ça. Et moi, j'étais tout seul, là, dans un coin, et ils m'ont dit, mais toi, tu es venu pour quoi? Ben, j'ai dit, moi, je suis venu pour le rôle. Le rôle, quel rôle? Ben, le rôle qui est marqué dans la petite annonce.
Vous aviez quel âge?
J'avais 12 ans. Oui. Et, alors, ça les a surpris, quand même. Et puis, bon, ben, finalement, ils m'ont gardé, et puis, ils m'ont fait faire des essais, après, puis, 15 jours avant le tournage, ils m'ont dit, mais ça serait quand même bien qu'on connaisse tes parents, parce que c'est parce qu'on va avoir des problèmes, il va se passer quelque chose. À ce moment-là, je leur ai dit comment je m'appelais. C'était un nom qui était déjà un peu connu, malheureusement. Et alors, ils ont cru que c'était une farce, ils se sont dit que c'était vraiment que ce gosse était un imposteur, etc. Finalement, ils ont appelé mes parents, et puis ça s'est arrangé. Mes parents étaient stupéfaits.
Ce nom n'a pas été qu'un boulet.
Non, ce nom n'a jamais été un boulet. Ce nom est un accélérateur.
Sauf face au général de Gaulle.
Non, mais accélérateur de tout.
De tout.
De bien comme de mal.
De bien comme de mal. Ouais. C'est-à-dire qu'on gagne 5 minutes partout, mais on gagne aussi 5 minutes dans l'agressivité ou c'est le jugement défavorable. Et en fait, il faut faire très attention.
Et c'était aussi les années d'une gouvernante, la méchante.
Oui,
mais ça, c'est une autre histoire.
Une nouvelle gouvernante,
vous l'avez écrit.
Vous le racontez.
On parle, parce que vous le racontez.
Oui. Mais je ne veux pas l'accabler, là, maintenant. Ça doit être une très vieille personne. Voilà.
Donc, elle est peut-être carrément plus là, non ?
Oui, elle est peut-être encore là aussi.
Mais en tout cas, vous parlez beaucoup de toutes ces personnes qui vous ont entouré enfant, à la maison.
Y compris d'ailleurs de celles avec qui vous êtes mal comporté aussi.
Bah oui, moi j'étais un sale gosse aussi. J'avais l'air d'un petit ange comme ça, j'étais gentil. Mais en fait, j'avais des pulsions agressives comme tous les gosses. Mais regardez, c'est quand même étonnant aussi ça. Il y avait donc une dame qui travaillait à la maison, qui était vraiment pas jolie, moche et tout ça, et je passais mon temps à la martyriser. Et en fait, je me suis rendu compte quand elle a plus été là que, en fait, c'est parce que je l'aimais. Mais je l'aimais beaucoup, en vérité.
Vous la frappiez.
C'était une manière pour moi de lui dire que je l'aimais. Ouais. Et je pense qu'elle m'aimait aussi, parce qu'elle se laissait faire. Et c'est arrivé il y a 60 ans. Et c'est toujours là.
Et vous allez le raconter tous les soirs.
Oui, je vais le raconter. Et c'est toujours là. C'est toujours là parce que quand on a fait une chose comme ça, qui au fond n'était pas si grave, hein, parce que j'étais pas non plus un monstre absolu, j'étais un sale gosse, quoi. Au fond, c'est parce qu'on tire le fil de toutes les autres fois où dans d'autres circonstances, on s'est pas bien comporté. Et finalement, ça vous ramène à ça, ça vous fait réfléchir à tout ça. Voilà. Mais je dois
dire. Ça vous a pas empêché, oui, pardon.
Je dois dire que depuis quelque temps, je me suis sans doute amélioré parce que j'ai du mal à trouver des moments où je frappe quelqu'un.
Alors,
sans raison.
Problème de comportement encore, c'était en 88, vous écoutiez.
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages.
François Hardy.
Avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre.
Et là, scandale, Leïla.
En 88, plusieurs petits scandales. Ouais. Vous quittez TF1.
Oui.
Qui était une chaîne privée. Pour arriver sur Antenne 2.
Ouais. Qui quitte l'autre, ouais.
Et vous déclarez, il n'aime ni les Noirs, ni les Arabes, ni les PD, ni les gens de gauche. Autant dire que je n'avais pas beaucoup d'avenir.
Oui, parce que je suis un peu noir, vous avez vu.
Oui, ça se voit, vous avez le teint allé.
Oui. Mais pourquoi Françoise Hardy ?
Frédéric Mitterrand, vous n'allez pas vous dérober.
Non, je ne vais pas me dérober, mais je voudrais juste simplement dire que ça, c'est une chanson absolument bouleversante.
D'accord.
Et si on fait la liste des chansons bouleversantes de Françoise Hardy, la liste est très très longue.
Absolument. Et ça permet c'est de ne pas même... répondre à cette question. Donc
non, mais juste une seconde pour dire à Françoise Hardy qu'on l'aime, quoi. Voilà,
clairement.
C'est quelqu'un de magnifique.
Oui, d'accord.
Magnifique. Alors maintenant, réponse à la question.
Voilà.
Bon, j'étais un peu provocant, j'avais sans doute un peu tort aussi, hein. Mais bon, j'étais un peu amer, quoi, parce que j'avais été sorti, quoi. Voilà. Alors, quand on est sorti, quelquefois, on n'est pas content.
Au-delà de la provocation et sortons de l'histoire médiatique, cette phrase de 88, aujourd'hui, en 2018, elle pourrait être tristement d'actualité. Quelqu'un qui dit, vous n'aimez ni les Noirs, ni les Arabes, ni les PD. C'est-à-dire qu'on est...
On en rencontre assez souvent. Moi, j'en rencontre dans le métro, par exemple. Ouais. Comme je prends beaucoup le métro, à peu près une fois par mois, je me heurte à quelqu'un qui
vous agresse.
Ouais.
Verbalement, qui vous insulte.
Oui, verbalement, oui. Et ça, voilà. Alors donc, maintenant, je sais assez bien me débrouiller.
Et l'insulte qui revient le plus fréquemment?
Vous choisissez entre les trois, là. Voilà. Ouais.
Nagui.
Non, j'ai bien compris. Vous ne voulez pas la formuler, c'est-à-dire vous.
Mais j'aime pas. Voilà.
Donc c'est des insultes
assez violentes.
Ouais.
Assez violente.
Et frontale,
c'est-à-dire... Je suis pas là en train de me pleurnicher, hein. Tout va bien. Je dis simplement que... cela dit, c'est une chose à laquelle on assiste actuellement.
Ouais, les agressions
homophobes. C'est à une montée des agressions homophobes.
C'est fou, un gros retour.
C'est fou.
On s'aperçoit de ça, et ça n'existait pas auparavant. Et c'est vraiment pas bien, quoi.
Ouais. Hein,
et quand vous luttez contre ça.
Et quand vous déposez votre set d'or lors de la cérémonie sur le sol en disant que c'est le niveau du service public, ça aussi c'était de la provoque ou pas?
Non, c'était un peu de l'indignation parce que il y avait eu. Tout d'un coup, j'avais plus d'émission du tout. J'en avais trois avant et j'en avais plus du tout. Et le patron de la chaîne m'avait dit bon, mais après, on va réfléchir, on va essayer de trouver autre chose, etc. Bon, très bien. Bon, ben, j'ai dit bon, ben d'accord, dans ce cas-là, je dis rien du tout et puis tout va bien. Et puis, il a répondu à une interview en disant que. J'étais nul, etc. Donc, il avait cassé un peu l'accord qu'on avait entre nous. Enfin,
de confiance.
C'était pas un accord, mais c'était, je veux dire, la relation, quoi. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, j'étais un peu indigné. Et puis voilà, bon, c'est pas grave.
Retour à la musique de Team Dup.
Combien de larmes, de gouttes de sel et de ciel noir, de voix qui appellent.
Ça, c'est un extrait de son album qui s'appelle Mélancolie Heureuse, mais il nous offre une exclusivité. Il va reprendre un titre d'Orelsan, chose qu'il n'a jamais faite. Ça s'appelle Tout va bien et c'est Team Dup en live.
Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. Si s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île, avec un palmier dans sa pierre. Tout va bien. Tout va bien, petit, tout va bien. Tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien. Tout va bien, petit, tout va bien. Tout va bien. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour faire briquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien qu'ils sont partis loin faire une ronde, tous en treillis, main dans la main. Tout va bien. Tout va bien, petit, bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, petit, tout va bien. Tout va bien.
Sam dans la bande originale, il reviendra tout à l'heure avec un nouvel extrait de son album. Tanguy Pastureau, bonjour.
Bonjour Nagui.
En Chine, publier des nouvelles érotiques peut mener à la prison.
Oui, puisque le pouvoir chinois dit que la pornographie met en danger l'unité nationale. Chez eux, Clara Morgan aurait fini dans un camp de travail à casser des cailloux. Tianyi, une romancière chinoise, vient de prendre 10 ans de tôle pour un bouquin érotique gay.
On en parle après les infos de midi. Avec Leïla Kadour-Boudjadine, Daniel Morin,
bonjour.
Tom Villa,
bonjour.
Guillermo Guise. En live tout à l'heure, il y aura Team Dup. Notre invité étant Frédéric Mitterrand.
Bravo.
Et tout de suite, Tanguy Pastureau.
Oh, Tanguy, enfin.
Tanguy.
Tanguy, en France, on écrit ce que l'on veut.
Oui, la preuve, c'est que même François Hollande a fait un livre à propos de son mandat. Il a réussi à pondre 288 pages sur rien. C'est-à-dire qu'en partant de la carrière de Nicolas Dupont-Aignan, le mec peut construire un opéra en 30 actes. Hein, on est libre. À la FNAC, on trouve aussi bien les bouquins de Marc Lévy que 50 nuances de Grey. Et il y a même des livres. Hein, mais dans la plupart des pays, c'est pas le cas, car ce sont d'immondes dictatures. Comme en Chine, où le pouvoir lit tous les ouvrages. Il y a un type là-bas qui le fait. Il a la même vie atroce que François Bunel de la Grande Librairie France 5. Et ensuite, Xi Jinping, le despote en place, valide certains livres, en général ceux dont le titre commence par « Xi Jinping est génial » et qui finit par « Je me le ferai bien tellement il est beau ». Ainsi, le 31 octobre dernier, on l'apprend seulement maintenant parce que le seul vecteur de communication entre la France et la Chine, c'est Raffarin et qu'il a dû poser des congés, une écrivaine a pris 10 ans de tôle à cause de son bouquin. Alors elle s'appelle Tianyi et a sorti « Gongzan », ça veut dire « occupation ». Chez nous, c'est cette époque où, selon Wauquiez, le maréchal Pétain était pour la GPA. Mais là, c'est plutôt de l'occupation d'un corps dont on parle par un corps d'une deuxième personne, puisque c'est un roman gay. Hein, Tianyi est en fait auteur de BL pour Boys Love, des nouvelles érotiques gays masculines pour lectrices hétéro. C'est un fantasme wow. Là-bas. Les femmes transpirent devant des récits d'homosexualité masculine. Vous filez le DVD de Brokeback Mountain à des chinoises, direct, elles vont sur Expedia réserver toute la saison aux deux Alpes. Hein, c'est comme si moi, homme hétéro, je prenais plaisir à imaginer des femmes en train de se papouiller, nues, offertes.
Calme-toi.
Leur vibrant de désir. Oui, bon, en fait, ça y est, j'ai compris l'intérêt du truc. Mais...
Alors, Gongzan. Une petite bouteille d'eau, là.
C'est vrai. Gongzan, c'est l'histoire d'un prof de maths qui se fait séduire par un jeune ado. C'est un peu le biopic de la rencontre des Macron, sauf qu'à la place de Brigitte, c'est Jean-Claude. Le prof, lors d'un cours, tend à l'élève un double décimètre. L'autre dit ça, monsieur, ça fait 60 bons centimètres. Le prof répond, toi, tu sais rassurer les mecs. Et s'ensuit une relation frénétique, peu basée sur la tendresse, mais qui permet à l'élève de réviser les conjugaisons des verbes prendre et venir. Oh. Bref, la lectrice kiffe. Tianyi écoule autant de bouquins qu'un vendeur de chichi qui l'était serait installé au bas de la villa de Gérard Larcher. Mais là, pas de bol, ça attire l'attention de la police de la province de Wuhu, hein, à l'est de la Chine. Wuhu. Province dans laquelle il est impossible de ne pas être joyeux, puisque quand on dit « moi j'habite à Wuhu hein, », on a autant envie de faire la jaille que sous Poppers à Goa. Donc la police a fait ses calculs et a conclu que Tianyi, ayant vendu 7000 livres avant Gongzan, un autre ouvrage de Boys Love, hein, l'histoire d'un jeune qui twerk contre le publiciste de Jean-Michel Blanquer, elle en a donc tiré, selon eux, l'équivalent de 18 000 euros. En Chine, c'est énorme. Ça équivaut à 87 milliards pour Carlos Ghosn.
Et alors, malheureusement, en Chine, il y a quand même une loi contre la littérature gay.
Oui, publier des œuvres homo-érotiques et en retirer plus de 6 300 euros de bénéfices est passible de prison. C'est comme le statut d'entrepreneur chez nous, mais avec des phallus. Dès qu'on passe la barre, c'est foutu. Le romancier doit donc sortir des livres qui enthousiasment le public, mais pas trop. C'est-à-dire que dans un roman gay, deux hommes sont au lit, quand soudain surgit Ludovine de la Rochère de la Manif pour tous, qui leur dit « Ah bah non les gars, qu'est-ce que vous avez pas compris dans le slogan « Un papa plus une maman » et la lectrice chinoise dégoûtée revend le livre sur le bon coin pour un euro. » Bref, Tianyi, qui a déjà écrit une dizaine de livres de Boys Love, a été condamné à 10 ans de prison, alors qu'en 2013, un ponte du régime en avait pris 8 après avoir violé une fillette de 4 ans. Donc la disproportion est délirante. Une auteure tueur prend plus cher qu'un violeur. Elle a fait appel, mais en Chine, ils n'ont pas Dupond-Moretti. Comment va-t-elle faire pour être acquittée ? En fait, d'après le Figaro, source interdite à France Inter, je prends de gros risques, la Chine réprime la pornographie de plus en plus sévèrement, car selon le régime, elle met en danger l'unité nationale. Rien que ça, nous, Castaner, nous dit que ce sont les gilets jaunes qui font ça, mais là-bas, ce sont les gens sans gilet, sans slip, sans rien. Et on les comprend, la lectrice fan de Boys Love, quand sur sa chaîne de production rêve que le chef d'atelier fait l'amour aux nouveaux stagiaires, bah les gadgets connectés ils se fabriquent pas tout seuls, et nous à Noël on sera obligés de souffrir des clémentines juste parce que ces feignantes sont lascives. C'est vrai que trop de frénésie sexuelle nuit à la productivité. C'est pas un hasard si sur les étiquettes des produits il y a jamais marqué Made in Mykonos. Mais 10 ans de prison juste parce qu'on a fait rêver 4 pleupleux qui s'ennuient avec des histoires de gars qui n'ont pas saisi les limites de la relation prof-élève, c'est énorme. En démocratie on écrit ce qu'on veut, même Ségolène Royal a sorti un bouquin. Mais en Chine, où l'homosexualité n'a cessé d'être un crime qu'en 98, hein, ils ont vu Deschamps sauter sur Thuram qui embrassait du gars et ils se sont dit c'est vrai que ça a l'air cool, et ben on peut toujours pas écrire grand chose.
Hein. Wow. Merci Tanguy Bachon. France
Inter, Maggie. Tanguy qui sera sur scène ce week-end à Carouge près de Genève, et Guillermo Guise qui sera au Bataclan le 27, 28 et 29 décembre.
Merci Zini.
T'as dit quoi ?
J'ai dit merci les amis.
Ah oui, voilà.
Mais il l'a dit en Guillermo. C'est un seul mot.
Mais comment tu peux faire ta carrière ? Alors justement, Frédéric, est-ce que vous vous inquiétez de l'articulation sur scène ? D'entendre Guillermo, je me pose
un
la question.
Un peu.
C'est vrai ?
Oui. Il faut articuler.
Pourtant, vous avez une voix bien particulière.
Bien timbrée, oui.
Oui, timbrée, oui, reconnaissable, souvent imitée, jamais égalée. Ce bonsoir, en plus, c'est pas vous qui l'aviez
inventé.
C'est une assistante de production, c'est ça ?
Oui, non, c'était ma maquilleuse qui me disait « N'oublie pas ton bonsoir ».
Elle avait adorable. Vu votre signature dans ce bonsoir.
Oui, elle, voilà. Et puis moi, j'y ai pas pensé. Et puis finalement, ça s'est imposé comme ça.
L'écriture qui est votre don,
faire des petits dessins,
votre talent. Non, mais l'écriture, justement, j'imagine qu'elle ne s'arrête jamais. Pourquoi ne pas avoir ajouté des didascalies ou peut-être un texte plus récent dans ces lectures ?
Parce que le texte le plus récent, je suis en train de l'écrire. Voilà. Donc c'est pas.
Voilà. Ouais, non, vous avez. Alors là, c'est une. Pardon, fausse réponse. J'imagine que vous avez écrit depuis 2016. L'extrait le plus récent dans ces lectures est de 2016.
Oui, j'ai écrit un livre sur. J'ai écrit un livre sur François Mitterrand, par exemple. Et puis. C'était. Et puis, j'ai beaucoup écrit parce que j'ai fait aussi un film sur Lana Turner qui va passer bientôt, l'actrice américaine. Et donc, ça, c'était un grand texte. Enfin, c'était un grand texte. C'était un long texte. Donc j'écris tout le temps, mais c'est pas tout n'est pas publié parce que tout apparaît quelquefois dans des émissions. Par exemple, le film sur Dior, c'est 2 fois 90 minutes. Bon, j'ai tout écrit. Ça pourrait faire un livre. Mais le problème, c'est que moi, quand j'ai fait les choses, après, je m'en occupe plus. Et si en fait j'y réfléchissais un petit peu, ben voilà, ça pourrait faire un livre.
Vous ne citez que des choses passées dans les exemples que vous donnez.
Oui.
Or tout à l'heure, avec beaucoup d'émotion, vous avez raconté votre quotidien.
Je vais écrire un livre
vous
sur
avez
la
une vision
relation
sur l'avenir aussi.
Oui, non, alors ça va être encore une histoire du passé, mais enfin je vais écrire un livre sur la relation entre Victor Hugo et Napoléon III. Hein, ça a l'air bizarre, hein. Mais en même temps, c'est très intéressant. Parce que Victor Hugo, c'est le génie poétique, littéraire du 19e siècle.
Et visionnaire sur l'Europe.
Voilà, visionnaire sur plein de choses. Et Napoléon III, c'est le méchant, en fait, qui a confisqué la République et qui nous a apporté le désastre de Sedan, etc. Et en fait, c'est pas si simple. Et c'est ça que je voudrais raconter.
Il y a une belle fiction qui a été diffusée sur France 2, incarnée par Yannick Choira, Victor Hugo et Isabelle Carré.
Oui.
Et on sent un petit peu ce...
Et c'est un vrai sujet, c'est vraiment très intéressant. Et c'est l'histoire de la fascination qu'ont les artistes et les intellectuels pour le pouvoir. Et la manière dont ils se définissent par rapport au pouvoir. Soit pour le refuser, soit pour l'accepter. Mmh. Et en fait, l'attitude de Victor Hugo était plus ambiguë qu'on ne pense. Et Napoléon n'était pas le salaud épouvantable qu'on a raconté.
Qu'on a bien voulu raconter. Oui. Du 23 novembre, après-demain, jusqu'au 6 janvier au studio Marigny, le bonsoir, ce sont des lectures faites par Frédéric Mitterrand sur scène à 21h.
Un peu de mélancolie heureuse, comme la douceur de la paresse, comme une après-midi pluvieuse, tout le contraire de la tristesse. Un peu de mélancolie heureuse.
Elle va bien cette chanson aussi avec ce que vous faites, hein, Frédéric.
Oui, oui.
Elle va bien cette mélancolie heureuse. C'est Team Dab qui revient dans cette bande originale sur son album, il y a également.
Soleil, soleil, des jours sans fin.
Soleil Noir qui va nous chanter, il est en concert, alors maintenant j'ai les vraies dates du concert, parce que tout à l'heure il y avait des petites boulettes, ça sera le 22 novembre à Porte-les-Valences, voilà, le 23 à Oyonnax, recommandé par Tom Villa, le 27 novembre à Noisy-le-Grand, 28 novembre à Lonne, 29 à Nantes, toujours en novembre à Saint-Denis-Laval, ça sera le 30, et puis en décembre, 1er décembre Lorient, 5 décembre Paris, Salle Playel, et tout de suite dans la bande originale avec Soleil Noir.
Je suis resté 15 minutes, la tête ancrée dans le bitume. Je me suis noyé dans les rues en enchaînant les boulevards. Comme si y avait au fond quelque chose à y voir. Une fucking interprétation, son sourire au coin du bar. En dansant dans la street, j'ai fait cracher mes poumons pour qu'ils vivent de l'envie qu'ils avaient de crier, de ne plus jamais la voir disparaître la nuit, s'envoler dans les ombres. Comme au tout premier soir.
Il y a une chose qui est très belle, c'est qu'il a l'air heureux de le faire.
Clairement.
Oui.
Et de le partager.
Oui, ça c'est vraiment bien.
C'est vrai. Team Dup sur son album, il y a ce soleil noir et cette mélancolie heureuse ou autre paradoxe mortel. Habanera, vous avez découvert son album aujourd'hui, la réédition avec trois titres, trois inédits. Nous sommes demain et mourir vieux. Il y a également des remixes comme Mortel Habanera ou encore fin août. Et il sera en concert en tournée en France et le 5 décembre à la Salle Payel. Merci Team d'être venu dans la bande originale. Merci. Dany.
T'as pas trouvé de saloperie à dire
si,
sur
moi, mais... si. Non, mais on est dans la journée des oxymores, puisqu'on était avec le soleil noir, on était avec des mélancolies heureuses, et là on passe du talent à Daniel Morin.
Enfin de l'invité qui a du relief. Enfin de l'invité de prestige. Frédéric Mitterrand, quelle joie de vous avoir à cette table de mécréants et d'incultes. Alors pour les jeunes générations...
Attends, pire là.
Non, vous inquiétez pas. Pour les jeunes générations qui nous écoutent, les 50-60 ans, Frédéric Mitterrand, tout le monde connaît le personnage. Mais pour les très très jeunes auditeurs de France Inter, les ados de 30-40 ans, qui est Frédéric Mitterrand? Eh bien, bande de boutonneux, Frédéric Mitterrand, c'est un ancien ministre, mais c'est aussi et surtout une voix off qui présentait des films à la télévision, dont notamment Étoiles, étoiles sur TF1 au début des années 80. Une présentation toujours enlevée, toujours léchée, toujours inspirée. Une période que Frédéric a toujours au cœur et qu'avec l'âge, il remet au goût du jour, qu'il remet au goût du jour dans toute situation. Oui, aujourd'hui, tout est prétexte pour Fredo. Aujourd'hui, le quotidien est devenu sa poésie, la vie est devenue son prompteur. Même l'arrivée de l'employé de la poste le matin est un prétexte. Bonjour Monsieur Mitterrand, c'est le courrier.
Bonsoir facteur. Courrier, enveloppe, colissimo, chronopost, carte postale. Mais qu'a du tongue dans ta besace facteur? C'est la question que tout le monde se pose quand tu arrives. Facteur, homme de l'ombre aux souliers usés par le macadam et au front rougi par les éléments. Souvent victime de l'échec scolaire, le facteur n'a pas choisi sa voie. Mais sait-il seulement qu'il est synonyme de bonheur et de joie pour nos lecteurs avides des petits matins? Parfois porteur de mauvaises nouvelles, il lui arrive de se faire croquer le mollet par un chien teigneux ou un retraité gâteux. Mais il garde la foi et même la partage quand, comme dans Le Facteur sonne toujours deux fois, film magistral de Bob Rafelson, à la manière et avec la fougue d'un Jack Nicholson, il culbute avec frénésie une Jessica Lange, lascive en femme au foyer à la recherche du frisson postal. Vive les facteurs!
Et ça, c'est Besancenot, le facteur en question.
Exactement, voilà, je sais que vous l'aviez casté. Alors, une habitude qui poursuit Frédéric Mitterrand, même en dehors de chez lui. Fredo à la boulangerie, c'est pas le client ordinaire. Bonjour Monsieur Mitterrand, qu'est-ce que ce sera pour vous aujourd'hui?
Baguette, pain de campagne, miche aux céréales, pain de mie, pain de seigle, le choix est multiple, la décision est épineuse. Que dire à la boulangère? La boulangère, femme esclave d'un métier harassant, où le jour commence à 2 heures et semble ne jamais finir. Du coup, comme souvent, elle craque, et à l'image d'une Ginette Leclerc inoubliable dans La femme du boulanger de Pagnol, elle déserte le foyer enfariné d'ennui pour aller trouver refuge dans les bras d'un homme moins asservi à la tâche, et qui à grand coup de boutoir saura lui donner un sourire que la routine du quotidien lui effacer à petit feu. Vive les boulangères!
Toi, tu es ma pomponnette.
Absolument. Ça, au rendure. Arrêtez avec les mots d'amour, ça me touche.
Ma pomponnette.
Et quand Frédéric va voir un match de foot au Parc des Princes? Ben, oui. C'est pareil.
Allez Paris, allez, allez, allez. Parc des Princes, temple moderne dédié au dieu football qui réunit les foules. Foule qui crie son amour pour Paris et hurle sa haine pour le visiteur et en particulier son gardien de but à grand renfort de... Oh, is...
Non.
Enculé
non, ben non.
Oh là là.
Le short serré, le maillot trempé, les 22 acteurs donnent tout et encore plus pour un public qui les inonde d'amour, pour l'actionnaire qui les éclabousse de pognon, mais aussi pour la gloire et la liberté, comme dans le chef-d'œuvre de John Huston, À nous la victoire, où Sylvester Stallone sauve l'honneur des prisonniers alliés contre l'équipe des vilains nazis. Vive le foot!
Et même quand son attaché de presse vient le voir, il est inspiré. Eh, bonne nouvelle, Fredo! Tu vas chez Nagui, tu fais la bande originale!
Nagui! Culture! Nagui, culture, quel mélange audacieux! Quel mélange improbable! Bande originale, mission folle, dirigée par un petit homme issu de la diversité, qui s'est frayé un chemin dans l'univers aussi glauque que parsemé d'embûches du showbiz, où son passé de dealer de coke l'a quand même bien aidé à franchir les étapes de l'humiliation systématique qu'impose le monde impitoyable du musical. Entouré parfois d'un chroniqueur aussi idiot que belge, qui à part son physique et quelques grammes de sopalin usagé n'a rien à vendre, d'une intervieweuse au regard biaisé qui prend le relais pour lire ses fiches quand âge oblige, sa vue se met brusquement à baisser, mais heureusement accompagné d'un chroniqueur aussi espiègle que talentueux qui répond au nom de Morin. Quelle bande d'incapables en tout cas qui nous rappelle Les Sous-doués, film chef-d'œuvrissime de Claude Zidi où les protagonistes ont comme seul talent celui de l'échec. Vive France Inter! Quel bonhomme ce Frédéric Mitterrand. Bonsoir.
Merci.
Bravo.
C'est bon.
Avec Nagui.
Je peux plus rien dire, moi, maintenant.
Frédéric, si vous avez encore beaucoup à dire, et ça sera au Cieux Marigny à partir du 23 novembre jusqu'au 6 janvier à 21h, Frédéric Mitterrand avec ses lectures. Des projets de documentaires, vous en avez parlé sur Lana Turner, ça sera pour
ça sera bien, ça.
Arte. Oui. Série de portraits d'écrivains également pour la chaîne Histoire. Vous avez également préparé un 52 minutes sur l'Algérie française.
Oui.
De 37 à partir...
Oui, de documents de famille, comme ça, c'est assez impressionnant, ouais. En couleur.
Et vous avez, mais de quoi avez-vous envie à la télévision? Parce que c'est une histoire aussi de d'amour et de haine entre vous et la télé.
J'ai envie de faire des films aussi maintenant. Je veux dire, il est temps.
De cinéma. Vous voulez dire pas de documentaire. Non. D'accord.
Des documentaires et des films. Ouais. Et voilà, je pense que les années passent et qu'il faut se dépêcher et qu'il faut absolument les faire. Voilà.
Carpe diem, très bien. Merci Frédéric d'être venu à ce micro.
Merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir d'être chez vous.
C'est gentil, des excuses faites par Frédéric ou par vous, Daniel?
Non, je vais les faire moi, j'ai déjà beaucoup travaillé. Désolé pour la direction de France Inter, la présidence de Radio France et plus largement les auditeurs de la bande originale qui ont découvert de la bouche de Fred Mitterrand, un ancien ministre de la Culture, directeur de la Villa Médicis, que nous étions une bande d'intellectuels. Combien vous dire comment moi aussi j'ai été très surpris, voire choqué.
Choqué.
Désolé pour les parents, les proches, les fans de Leïla qui ont découvert ce matin qu'elle travaillait pour préparer l'émission. Comment vous dire, moi aussi j'étais un peu surpris, un peu choqué. Et désolé enfin pour Guillermo Cuisse qui pour la première fois a fait une chronique qu'on a réussi à comprendre. Eh ouais, mais pas de bol mon garçon. Eh ouais, c'était aujourd'hui avec Frédéric Mitterrand. Eh ouais, Fredo l'éclabousseur, Fredo le geyser. Attention mon gars.
Enfin le geyser, n'exagérons pas quand même.
J'ai vu vos vidéos Fredo.
Merci Guillermo Cuisse, merci Tanguy Pastureau, merci Tom Villa, merci Daniel Morin et comme dira Leïla Kadour Boudadi, je vous demande de nous écouter demain avec Anaïs Moustier.
Pierre.
Oui, absolument. Et Pierre Ninet qui seront nos invités. Encore merci à vous, Frédéric Mitterrand, et à Team Dub. Bonne journée. Voici les carnets de campagne.